Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Nous allons parler aujourd'hui d'un personnage qui a émergé dans les chantiers, ou le chantier de la cathédrale de Chartres. En général, nous ne savons pas grand-chose sur les maîtres bâtisseurs, mais là, un personnage nous est bien connu. Il émerge au XVIe siècle, c'est Jean Texier. Et nous avons dans notre studio avec nous Michel Boutier, historien, que je salue, et qui va nous parler de ce personnage bien connu, mais peut-être pas autant que lui, il le connaît désormais. Donc, bienvenue Michel Boutier, et je vous laisse tout de suite la parole pour présenter ce grand bâtisseur du XVIe siècle.
Merci et bonjour. Jean Texier, oui, on le connaît sous un autre nom, mais voilà, c'est le suspense. Jean Texier, c'est l'architecte, le premier architecte dont on connaît vraiment le nom à la cathédrale d'une manière sûre et certaine. Donc vous voyez, il faut attendre les premières années du XVIe siècle. Évidemment, il a fait l'objet de travaux, parce qu'il y a plusieurs sources écrites qui sont conservées aux archives départementales de Eure-et-Loir, de la Sarthe, et puis on a des inscriptions lapidaires, etc. Et les dernières recherches ont été faites par Isabelle Isnard, qui a notamment étudié l'abbatiale de la Trinité de Vendôme. Et alors d'après ces recherches, Jean Texier serait originaire du Mans.
Que vous connaissez bien, puisque vous avez séjourné longtemps au Mans, vous connaissez très bien la cathédrale du Mans. Est-ce qu'il aurait aussi travaillé sur la cathédrale
du Mans ? Non, il n'y a pas laissé de traces à la cathédrale du Mans, c'est certain. Voilà pourquoi elle pense à cela, c'est parce qu'elle a trouvé sur le chantier du château du Mans en 1475 un maçon qui s'appelle Jean Texier. Maintenant, ça ne suffit pas. Donc, à partir de là, elle a cherché dans les comptes de la ville, les archives de la ville, et elle a trouvé effectivement une quantité de patronymes, mais ils disparaissent pratiquement tous à partir de 1489. Voilà, alors, est-ce que c'est vraiment notre Jean Texier à nous ? Ça, on ne peut pas en être absolument certain, mais il est bien évident, je vais continuer à vous parler aussi de sa famille, il est évident que quand il arrive à Chartres, puisque on le voit, c'est lui qui a fait la flèche donc de la tour nord. C'est son chef-d'œuvre, évidemment. Ça suppose qu'il a travaillé bien avant et que quand il arrive là, il est en pleine force de ses moyens.
Est-ce qu'on connaît sa date de naissance ?
Non.
C'est rarement connu.
Oui. Par contre, on a la date de sa mort, 1529.
Et en plus, il est enterré à Saint-André.
Voilà, la collégiale Saint-André. Alors, à partir de là, Isabelle Isnard continue ses recherches, mais là, du coup, les documents, c'était déjà un peu connu. On s'aperçoit que dans les dernières années du XVe siècle, le fief familial est à La Ferté-Bernard. Donc, vous voyez, La Ferté-Bernard, Le Mans, c'est à côté. Les patronymes disparaissent vers 1489, et comme par hasard, si j'ose dire, on retrouve toute cette famille dans les papiers des archives de La Ferté-Bernard.
C'est fabuleux d'avoir pu trouver la trace au moment de ce...
Si c'est lui, parce que vous allez voir, c'est pas facile, parce que souvent, les pères donnent leur prénom à leur fils. Et donc, au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui. Et justement, à La Ferté-Bernard, il y a une magnifique église, Notre-Dame des Marais, qui a été construite donc dans les dernières... à cheval, sur la fin du 15e, début 16e. Et justement, parmi les maîtres d'œuvre de l'église, il y avait donc Jérôme Gouin, qui était associé à un Jean Texier. Et on sait que ce Jean Texier est mort avant 1531.
Ouais, je viens de vous dire que... Ça colle effectivement avec la date très bien connue ici à Chartres.
Oui, seulement, les spécialistes... Isabelle Isnard ne se prononce pas trop là-dessus, mais les chercheurs qui l'ont précédé pensent plutôt que ce soit un cousin homonyme.
Ce qui arrivait fréquemment.
Ben voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas afficher les choses d'une manière absolument sûre et certaine. Mais c'est vrai qu'il y a des correspondances qui sont troublantes quand même. Voilà. Si vous voulez, on peut en toute logique dire, la famille était au Mans. Bon, il commence par maçon, il taille des pierres. Et puis elle se transporte à La Ferté-Bernard, elle s'installe là, et puis voilà, donc...
Et ça voudrait dire aussi que ce don de bâtir, c'est bien manifesté dans la famille, comme c'est souvent le cas chez les médecins, on retrouve les mêmes professions.
Au Mans, on n'a que des patronymes, mais à La Ferté-Bernard, on connaît leur profession, ils sont tous maçons. Hein, et donc on en a plusieurs, on a Adrien Le Texier, alors justement là on a un Jean Le Texier, et un Jean Le Texier qui est son fils. Donc il y a le père et le fils, alors, vous voyez, c'est pas facile. Et donc le Jean Le Texier père, justement, c'est celui qui est maître à l'église de La Ferté-Bernard. Et on a aussi un Michel Le Texier. Et alors, notre Jean à nous, hein, eh bien, sa première femme, c'est Marguerite Martin. Et on voit aussi qu'elle a des biens dans la région de Ferté-Bernard.
Mais il s'installe à Chartres ? Ou à partir de quel moment Jean va se distinguer de sa famille en se nommant...
Voilà. Alors, eh bien, justement, quand... bon, à la Ferté-Bernard, ça c'est bien étonnant qu'il n'ait pas travaillé à l'église, d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, il commence à monter dans la qualification de son métier. Et quand les chanoines de Chartrains vont le chercher, il signe un contrat avec lui en 1506. Et dans ce contrat, il est spécifié qu'il est maçon à Vendôme. Or,
à Vendôme... Est-ce qu'il aurait travaillé à la Trinité ?
Ben voilà, c'est l'époque exactement où on termine la façade de la Trinité de Vendôme. Donc, évidemment, s'il est maçon à Vendôme, c'est pas par hasard non plus.
Évidemment, le chapitre de la cathédrale n'aurait pas non plus eu recours à un artiste inconnu. Il fallait quelqu'un déjà d'éprouvé.
Donc, c'est certainement lui, Isabelle Isnard.
Alors, il signe comment, ce contrat, Jean Texier ou Jean de Beauce déjà ?
Alors, justement, dans le contrat, il est cité Jean Texier.
Alors, ce fait de reprendre le métier à l'intérieur d'une famille est lié sans doute aussi à la constitution des corporations, parce que là, les métiers vont se transmettre aussi de père en fils.
On le voit bien. C'est toute la famille est dans le bâtiment. Et alors là, justement, le texte du contrat, j'y reviens, c'est intéressant parce qu'ils disent, je l'ai sous les yeux là, donc le chapitre parle, au nom de nous, donc le chapitre, a marchandé avec Jean de Beauce, dit Texier, maçon demeurant à Vendôme. C'est marrant parce que en fait, de Beauce, c'est son surnom pour le distinguer de la famille Texier qui restait dans le Perche. Et quand il arrive à Chartres, on se l'approprie, c'est Jean de Beauce, dit Texier. c'est curieux.
Ça montre l'importance des surnoms, une fois qu'ils...
Ben oui, parce qu'encore une fois, plusieurs personnes dans une famille ont le même prénom. Donc il faut après les distinguer.
Est-ce qu'on fait une petite pause musicale et on reprend après avec le contrat passé pour construire la flèche de la tour Nord ? Nous Nous sommes à Radio Grand Ciel avec Michel Boutier, historien, qui nous parle d'un certain Jean Texier, mieux connu à Chartres comme constructeur, bâtisseur d'une partie de la cathédrale au XVIe siècle, Jean de Beauce. Et nous étions en train de parler avec Michel Boutier, ou plutôt lui, de nous exposer le contenu du contrat passé en 1506 entre Jean Texier, ou plutôt Jean de Beauce dit Texier, avec le chapitre de la cathédrale de Chartres.
Voilà, donc il s'agit bien entendu de passer un contrat avec, pour reconstruire le clocher. Ce qui veut dire que le clocher nord de la cathédrale avait été achevé qu'au XIVe siècle. Et il a été victime d'un incendie le 21 juillet 1506, le jour de la Sainte-Anne. C'est cruel pour Chartres. Et alors on a le texte, hein, alors c'est grandiose. Hein,
Donnez-nous la description de cet incendie, parce que les textes sont très pathétiques.
Oui, tout à fait.
Il y a un peu d'exagération.
Donc, entre 7 et 8 heures du soir, le tonnerre chut au clocher de plomb de l'église Notre-Dame de Chartres. Par le haut, les pommes dissolues, étant à main gauche de la porte réelle de la dite église. Alors, vous voyez, c'est bien le portail royal, etc.
Mais la porte royale, pas les portes royales.
Non, la porte.
La porte royale.
La porte royale, voilà. Et évidemment... Le texte signale lequel clocher qui était très beau et magnifique, n'est-ce pas?
Mais il n'y a aucune description plus détaillée, nous ne savons absolument pas à quoi elle ressemble.
On sait justement par le même texte, hein, voilà le passage. Hein. Le clocher qui était de bois et couvert de plomb, jusqu'à la première voûte étant de pierre. C'est-à-dire qu'il y avait une tour carrée en pierre, dont il subsiste une partie, et dessus il y avait une flèche en charpente couverte de plomb, comme... beaucoup d'églises.
Et on ne dit pas à un moment donné du style normand ?
Non, il n'y a pas d'indication.
Il n'y a pas d'indication ?
Non. Et alors le texte continue, lequel tonnerre, éclair, pluie en grande abondance, en façon qu'il semblait qu'on la versa et jeta à seaux, durèrent sans cesse depuis l'heure de sudite jusqu'à environ 4 heures après minuit, tellement que chacun doutait, toute la dite église, ensemble la ville, ou la plupart d'y celles, être et choir totalement en grande ruine, calamité, pauvreté, et en danger d'être brûlée, détruite et exterminée. Et criait chacun par grande douleur, compassion et pleurs à Dieu, miséricorde. Enfin voilà, le texte continue comme ça. C'est
vraiment, on craignait pour la survie de la cathédrale elle-même.
Ben évidemment, oui. Mais alors justement, le ciel est bon, c'est probablement Sainte-Anne qui est intervenue. Il y a une pluie torrentielle qui a suivi l'allumage à l'incendie, et donc ça ne s'est pas propagé.
En cas de sécheresse, une pluie toujours salutaire. Donc la tour brûle, ou la flèche brûle jusqu'à la...
La flèche brûle et elle s'effondre à l'intérieur de la tour. Donc ça veut dire que tous les parements intérieurs de la tour sont calcinés.
Et les cloches ?
Et les cloches sont détruites, c'est dans le texte d'ailleurs, je ne sais pas tout. Donc tout est détruit.
Tout ça devait représenter un grand poids, quand même, le plomb quand ils fond.
Oui, bon, par rapport à la pierre, c'est relativement faible. Mais alors, à la suite de la catastrophe, le chapitre ne va pas se démonter. Et dans les jours qui suivent, tout de suite, on pense à la reconstruction. Donc on passe déjà des contrats, dès le mois d'août. Hein, dès le mois d'août, on passe des contrats pour acheter du bois. On va passer des contrats avec les carriers de Berchère, qui vont devoir livrer des quantités de pierres impressionnantes, d'ailleurs toutes les semaines, c'est spécifié. Et au mois d'août, on passe tous ces marchés-là, il est clair que Jean de Beauce a déjà été contacté, pour justement imaginer déjà son projet. Et alors, le 11 novembre 1506, on convoque Jean de Beauce, et alors le texte nous dit qu'il a fait un magnifique dessin. Je cherche le.
Est-ce qu'on a trace de ce dessin ?
Alors le dessin a disparu.
Il a disparu également.
Bien hélas.
Donc voilà. Mais le texte nous est parvenu.
Voilà, alors tout le contrat est conservé aux archives de Raye-et-Loire. Il a été publié plusieurs fois. Hein. Donc je peux vous en passer quelques extraits.
Très volontiers, ça serait très intéressant.
Voilà, donc encore une fois, le chapitre, donc à marchander avec Jean de Beauce, dit Texier maçon, demeurant à Vendôme. Ad se présent, c'est-à-dire qu'il est présent, qui a promis faire, construire et édifier bien et dûment de son métier de maçon le clocher de notre église, qui était de bois, couvert de plomb. Et puis naguère, pour foudre et tonnerre, a été brûlé. Et celui, alors quand je dis celui, c'est celui-ci, bien sûr. Et celui, faire et parfaire de pierre, de la hauteur du clocher de pierre, dit celle église, l'ancien, le clocher du XIIe siècle.
Aussi haut que celui du, donc, oui. L'actuel hauteur.
Attends, mais ça continue. Ou autre hauteur plus convenable, et le plus honorable et somptueux que pourra se faire. C'est vraiment une heureuse époque. Hein. Aujourd'hui, c'est pas possible, ça, on limite les crédits. Non, là, vraiment, il faut y aller, il faut faire le mieux possible, peu importe. Voilà. Et donc, ensuite, il s'associe donc avec un spécialiste, Thomas Levasseur. Certainement, il est habitué à travailler avec lui. Et ensuite, alors et justement, ils expliquent donc qu'il faut qu'il fasse les patrons pour tailler les pierres et toute autre chose requise et nécessaire à son métier, à faire et parfaire le dit clocher. Le tout, selon un patron, bel et magnifique, pourtrait en parchemin, Paris celui de Beauce, ce jour-là montré et exhibé en la chambre des comptes. Ou mieux, s'il peut se faire. Rendez compte, hein. Voilà, ce marché fait moyennant et parmi ce que nous serons tenus payés aux 10 gens de Beauce, donc après ils donnent les salaires, etc. Donc autrement dit, le 11 novembre, Jean de Beauce a fini son projet, enfin en gros, hein. Il fait une magnifique image sur un grand parchemin. On en a des semblables pour Strasbourg et autres.
Plusieurs parchemins, hein, voilà. Tout est collé ensemble, voilà. Pour montrer.
Et donc c'est
la totalité
exhibé,
de la
comme
façade.
Dit le texte, dans la chambre des comptes du chapitre. Donc ils arrivent là, ils débattent. Et c'était déjà magnifique, c'est ce que l'on voit. Et ils en rajoutent encore, et mieux encore si l'on peut.
Ce qui, par contre, est très étonnant, parce qu'on ne craignait pas d'un concours de route de changer, d'adapter le projet. On n'était pas fixé sur.
Ah ben là, c'est tout. Il est au stade du dessin, là. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Le dessin est fait pour ça, pour faire voir aux chanoines à quoi ça allait ressembler, et puis éventuellement en rajouter ou en diminuer.
Donc le salaire est également fixé dans son contrat. Est-ce qu'il était bien payé, notre Jean Texier?
Bah là aussi, c'est très difficile de faire des correspondances. Hein. Mm-hmm. Ce que l'on peut savoir, c'est que lui, il est accompagné de serviteurs, de varlets, etc. Donc des gens de base, si on peut dire. Et il touche deux fois plus qu'eux.
Il s'occupe aussi de monter le chantier.
Justement, d'après les détails du contrat, il s'occupe de tout. C'est un vrai chef d'entreprise.
Mais c'est peu la particularité du Moyen-Âge. Quand on confie à un maître verrier les verrières, ils sont responsables aussi de monter tout le chantier.
Là, il est responsable du recrutement des ouvriers, tout.
Une liberté totale.
Les outils, c'est lui qui s'occupe de tout, absolument de tout. Sauf qu'il ne paye rien de sa poche, bien sûr. Tout est payé par le chapitre.
On rêverait d'avoir ces conditions aujourd'hui.
Mais c'est lui qui dirige tout l'ensemble. Et donc, il est seulement payé deux fois plus que l'homme de base. Rien à voir avec notre époque. Hein.
Donc, un peu de musique pour digérer ces bonnes nouvelles.
Thank you.
après cette belle pièce grégorienne qui nous rappelle le Moyen-Âge, que nous avons quitté pour la Renaissance, parce que nous parlons aujourd'hui de Jean Texier, Jean de Beauce, constructeur de la tour nord de la cathédrale de Chartres. Nous avons Michel Boutier, éminent historien, avec nous dans le studio pour évoquer le souvenir de son grand bâtisseur, justement. Je voudrais lui laisser la parole pour qu'il nous donne un peu quelques dates de la construction et peut-être aussi de nous parler, afin qu'il nous parle un peu des autres travaux que Jean Texier a fait dans la cathédrale et peut-être aussi à Chartres.
Et ailleurs.
Et ailleurs.
Alors, donc le contrat est passé le 11 novembre 1506. Et dans le contrat, je n'ai pas tout lu, c'est trop long, les chanoines demandent de commencer à Noël. Ils sont excités.
Très pressés.
Ils sont excités. Mais le problème, c'est que vraiment, on sent bien qu'ils chantent les psaumes à la cathédrale, mais ils connaissent rien au bâtiment. Comment voulez-vous qu'un maçon commence à maçonner à grande hauteur pendant l'hiver? C'est pas possible.
Donc, alors, est-ce que le chantier va débuter?
Non, bien sûr que non. Donc le chantier, en fait, la première pierre va être posée le 24 mars 1507. Et puis ensuite, on a des points de repère. Donc toute la partie basse de la flèche, qui est extrêmement ouvragée, avec une structure tout à fait extraordinaire, est terminée vers 1513, puisqu'il y a une inscription. Et enfin, le haut de la flèche est terminé en 1517.
Alors on a quand même, si on regarde les dates, un laps de temps très long.
Oui.
10 ans.
Oui.
Pour cette flèche, alors que oui, dans la chronologie de la cathédrale de Chartres, on l'a fait bâtir en 20 ans.
Oui.
Est-ce raisonnable?
30.
Est-ce raisonnable?
Oui, alors justement, et puis vous voyez que le chapitre a priori est pressé et il ne manque pas d'argent.
Il ne manque pas d'argent. Parce qu'ils lançaient une souscription, comment est-ce qu'ils ont pu réunir cette somme qui devait être assez élevée?
Vous savez, on est au début du XVIe siècle, c'est simple. On crée des indulgences.
Racontez-nous un peu comment cela fonctionne. Je pense que c'est pour la bonne cause.
Donc l'évêque de Chartres et le chapitre d'abord vont instituer des confréries de Notre-Dame dans toutes les paroisses de Chartres. Et puis Monseigneur Georges d'Amboise, alors Georges d'Amboise c'est pas n'importe qui, c'est l'archevêque de Rouen, qui en plus de ça à cette époque-là était légat du pape. Et donc il a institué des indulgences pour la reconstruction du clocher. Alors que ça se passe de la façon suivante, vous vous inscrivez dans une confrérie, moyennant des dons. On vous donne quelques petits conseils de vie spirituelle. On chante une messe pour vous tous les mois. Et puis, toutes vos fautes sont pardonnées. Voilà, moyennant, effectivement, une offrande substantielle pour la construction du clocher.
Donc on avait un retour.
Voilà.
Alors, un retour spirituel.
Voilà. Il y a des inscriptions qui sont très drôles là-dessus. Et donc, le temps qu'il a fallu pour le construire s'explique justement à cause de la nature du chantier. Bon, d'abord, on travaille toujours à grande hauteur. Hein, on est à une centaine de mètres dès la base de la flèche. Et donc, il faut savoir que, bon, d'abord, l'hiver, il n'y a pas question de travailler. Donc, vous voyez, d'octobre à mars, le chantier est fermé. Ensuite, dès qu'il y a un grand vent, il faut tout arrêter. On ne peut plus monter les matériaux. Si vous voyez une pierre de plusieurs centaines de kilos au bout d'un câble à 100 mètres de haut, par grand vent, vous prenez des risques. On sait qu'il y a eu un mort, d'ailleurs, hein, avec la grue. 31 mai 1511, exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant les restaurations qui ont lieu au XXe siècle, alors évidemment dans les documents, eh bien, on a interrompu le chantier d'octobre à mars, également, pour des questions de sécurité. Donc, tout cela mis bout à bout, et Dieu sait s'il y a du vent en Beauce, ou des jours de pluie, ben fait que le chantier fonctionne à peine la moitié de l'année, et quand vous vous promenez dans les parties hautes de ce clocher, vous êtes stupéfait devant le détail de moulures, de sculptures qu'il y a, et ça demandait un travail considérable.
Mais sans doute ces pierres ont pu être taillées pendant les mois d'hiver à l'abri d'un...
Oui, certainement.
D'une loge
une bonne partie, oui. Mais ça reste quand même un travail considérable.
D'autant plus qu'on ne voit pas tous ces détails en bas.
Exactement, oui, tout à fait. Et c'est vraiment étonnant, c'est vraiment admiratif devant la structure d'abord des volumes du clocher, et comment le décor s'applique dessus.
Donc ce serait bien que les auditeurs qui découvrent la finesse de cette construction puissent profiter pendant les mois d'été de monter sur cette tour qui se visite.
Oui, enfin on la visite à un certain niveau, hein, mais bon, on approche quand même de...
Il y a même les statues des apôtres qu'on ne soupçonne pas non plus tout là-haut.
Oui, oui.
Donc un grand souci du détail, une ornementation exubérante.
Exubérante, mais bien rangée. Il n'y a pas de fouillis ni de désordre. Hein. C'est ça qui est tout à fait étonnant.
Est-ce que on sait si Jean de Beauce avait une liberté totale concernant aussi la conception du programme iconographique qu'elle a
Le programme iconographique, c'est simple. Hein. Il y a le Christ entouré des 12 apôtres. Bon, comme il y a 4 coins à la tour, ils sont logés par 3 ou à chaque coin, vous savez, le Christ au milieu. Bon, je pense que...
Sans doute, ce sont les chanoines qui lui ont donné le thème...
Probablement, mais enfin, bon, je veux dire que là, on ne peut pas vraiment parler de programme iconographique. Voilà. Alors, Jean de Beauce, on peut se dire, bon, ben voilà, il arrive à Chartres, il fait ça, donc il a fait beaucoup d'autres choses. Donc, je vous dis, il a certainement, évidemment, fait la façade de la Trinité de Vendôme. À part ça, on ne sait pas trop. Probablement, l'église de la Ferté-Bernard, il a travaillé dessus. Pardon. Et après, eh bien, il s'installe à Chartres, donc d'ailleurs, et il va vendre la maison d'affaires de Bernard, il va s'installer à Chartres. Donc d'abord, il est logé en location, si je puis dire, rumuré, et puis il va acheter une propriété à la Porte de Rouez.
Est-ce qu'on connaît le numéro de la maison où il logeait à Chartres rumuré?
Enfin, peut-être que des spécialistes ont fouillé les anciens plans, je ne sais pas. Mais
cela se découvrira peut-être prochainement parce que je sais que les archives départementales ont mis sur place un groupe de travail de paléographes pour examiner tous les documents concernant les maisons des chanoines. Peut-être un chanoine lui a prêté sa maison dans la rue Muret.
Non, on sait que c'était une maison du chapitre qui est affectée au maître d'œuvre de la cathédrale. Voilà, alors il va prendre une deuxième femme d'ailleurs, puisque la première va décéder, et c'est la femme d'un commerçant, enfin c'est la fille d'un commerçant de Chartres, donc il est devenu chartrain. Et donc les chanoines vont lui confier ensuite la clôture du chœur de la cathédrale. Alors entendons-nous bien, il fait l'enveloppe, c'est-à-dire le décor, les groupes sculptés, ça il n'y touche pas. Hein. Mais bon, l'enveloppe, vous avez tous vu l'ampleur du travail, et là aussi, au niveau de la sculpture, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Il a dû dessiner les gables, toutes ces...
Il a tout dessiné, bien entendu, il a tout dessiné. Et bon, c'est très répétitif, mais bon. Et ensuite, on va lui confier la construction du pavillon de l'horloge, donc qu'il va construire en 1520.
Autour d'un mécanisme d'horloge plus ancien, selon ce que...
Oui, il est probable que la partie basse, d'ailleurs, soit plus ancienne que le pavillon où se trouve le cadran. Et alors là, avec le pavillon de l'horloge, c'est très intéressant aussi, parce qu'il va complètement changer son répertoire de formes décoratives. Il adopte entièrement les formes de la Renaissance italienne. Enfin, ça va être le dernier mot, je pense... Il faut absolument le dire, quand Jean de Beauce est à Chartres, c'est l'un des plus grands architectes de son temps. Pourquoi je le sais? Parce qu'en 1516, il est convoqué à Rouen pour faire une expertise de la tour centrale de la cathédrale. Donc déjà, c'est quelqu'un. Et en plus de ça, le texte, je l'ai sous les yeux, mais ça va peut-être être trop long, il est associé à Martin Chambige, qui est le plus grand architecte de l'époque. Et à Troyes, où il fait la façade de la cathédrale, il est qualifié de supremus artifex. Autrement dit, Jean de Beauce, il est au niveau, c'est aussi un supremus artifex.
Quand on connaît cette belle tour à Chartres, on n'est pas étonné d'apprendre que nous avons eu l'un des plus grands imagiers bâtisseurs ici à Chartres. Michel Boutier, je vous remercie infiniment pour cette belle exposition sur ce maître bâtisseur, 16e siècle. Et si les auditeurs veulent vous écouter, ils peuvent s'inscrire à l'école des arts organisée par le Centre international Vitrail, vous donner des cours sur la cathédrale, pas seulement sur les vitraux, mais aussi sur les sculpteurs et maîtres bâtisseurs. Donc, merci beaucoup Michel Boutier. Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, très bonne journée, à très bientôt. Au revoir.